La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Vous allez bien sûr évoquer dans un instant les tensions raciales, sociales et policières aux États-Unis, mais avant cela, vous avez décidé de nous emmener dans l'est du Burkina Faso.
Oui, car j'ai été frappé ce matin par la une du quotidien Aujourd'hui le Faso et ce grand titre qui décrit le week-end qui vient de se terminer comme 48 heures infernal. Pour qui ? Pour que le journal de Ouagadougou emploie une telle formule, sachant que les massacres et attaques terroristes sont devenus depuis des mois tristement récurrents dans la région du Sahel, c'est que ces 48 heures-là ont dû être particulièrement sanglantes et elles l'ont été, nous confirme Wakat Serra. À peine le Burkina se relève-t-il et sans trop de dégâts humains a priori de l'épidémie de Covid-19, que ce vieux démon du terrorisme indiscriminé lui retombe dessus et se rappelle à son souvenir. Il n'avait pas cessé ces derniers mois, ce terrorisme relativise Aujourd'hui le Faso, mais il n'occupait plus, c'est vrai, la une comme ce matin. Ces trois derniers jours, donc, une cinquantaine de personnes a trouvé la mort dans des attaques des groupes armés qui, selon leur mode opératoire désormais bien connu, débarquent de nulle part, fondent sur des villages et tuent, pillent, détruisent avant de disparaître à nouveau dans la nature. Vendredi, c'est un convoi de commerçants qui a été pris pour cible avec 15 civils tués. Le même jour, les tueurs volatiles à moto, comme les surnomme le quotidien, ont fondu sur le petit marché du village de Solé au nord du pays et y ont abattu 9 personnes. Et puis le lendemain, samedi, un marché aux bestiaux a été donc pris pour cible. Le scénario s'est reproduit plus au sud-est, dans le village de Kopienbiga, avec au moins 25 victimes dans la foule mitraillée au hasard.
Voilà qui repose ces questions de fond, mais qui en veut à ce point au Burkina et à sa population? Et pourquoi, Camille?
Eh bien, ce sont les questions lancinantes qui parcourent l'édito d'Aujourd'hui le Faso, comme celui du Pays d'ailleurs, l'autre grand titre de la presse à Ouagadougou, lequel Pays compare ce calvaire vécu par le Burkina Faso à la torture qui consiste à faire tomber à intervalles réguliers une goutte d'eau, vous savez, sur le front d'un prisonnier. C'est la répétition implacable du supplice qui rend fou, qui condamne des milliers d'habitants de l'est et du nord du pays à vivre désemparer la peur au ventre, nous dit-on, qui pousse les populations de villages entiers à fuir en abandonnant tout derrière elles pour ne pas être les prochaines cibles de ces braconnages humains. Et il y a de quoi devenir plus fou encore quand on rappelle que ces soi-disant terroristes à l'œuvre ne revendiquent rien, ne s'identifient pas, ne serait-ce que pour faire passer un message politique ou religieux. Quoique fassent les armées des pays concernés au Sahel avec l'appui de la force française Barkhane pour couper les tentacules de cette hydre terroriste, nous dit Wakat Serra, ces tentacules repoussent toujours et frappent à nouveau. Alors faut-il voir dans les attaques de ce week-end des représailles après justement les opérations antiterroristes évoquées par Jeune Afrique et qui ont été menées ces derniers jours conjointement par les armées de Côte d'Ivoire et du Burkina? Faut-il y voir une manière pour les groupes armés d'attiser encore les tensions ethniques dans un pays, le Burkina Faso, où la communauté Peul, rejetée par le reste des populations rurales, est souvent accusée de collaborer avec les terroristes? À ce sujet, comme nous le rappelle l'observateur Palga, la situation burkinabé est particulièrement tendue ces dernières semaines après que le 12 mai dernier, 12 hommes peuls, présentés comme des terroristes présumés, ont trouvé la mort dans une cellule de la gendarmerie de Tamouabougou où ils étaient détenus. Le mystère qui entoure leur décès suscite un profond malaise chez les peuls, à en croire un élu de la région cité par Jeune Afrique, selon qui le repli communautaire au Burkina Faso n'est pas un risque, il est déjà là. Difficile d'imaginer un meilleur combustible pour la folie destructrice des terroristes du Sahel.
Et puis alors, on évoque un sujet sur lequel on va revenir plus longuement, Camille Magnard. Aux États-Unis, l'étincelle qui a remis le feu au baril de poudre racial et social, c'est la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans, tué par un policier à Minneapolis.
Oui, et depuis, chaque jour, on a vu le mouvement de colère contre les violences policières et le racisme américain prendre de l'ampleur à travers le pays avec des manifestations, des affrontements avec la police, des pillages, des couvre-feux instaurés dans les principales villes. Mais dans la presse américaine, on note tout de même un glissement. Plutôt que des violences racistes si récurrentes commises par la police, c'est sur la violence des manifestations que les grands journaux semblent vouloir mettre l'accent désormais. La violence déborde des rues, écrit The New York Times, en tentant de résumer la nuit qui s'achève, et le quotidien de s'interroger sur le bien fondé de ces théories qui agitent la presse conservatrice américaine. Bien au-delà des raisons raciales de ce mouvement de colère collective, il y aurait, derrière les violences de ces dernières nuits, une manœuvre de mouvements anarchistes, d'extrême gauche, ces antifas pas désignés par Donald Trump en personne comme les fauteurs de troubles. La police de New York a bien évoqué des groupes préparés de longue date à l'affrontement violent et organisé avec les forces de l'ordre. Mais cette désignation par Trump, pyromane en chef du mouvement antifasciste comme organisation terroriste, c'est de la folie, ça ne tient pas, selon le spécialiste sécurité de CNN Peter Bergen, et ça fait ressortir surtout la complaisance coupable avec laquelle le président américain traite la violence des groupes suprémacistes blancs d'extrême droite, cette fois, qui tuent beaucoup plus aux États-Unis et que Trump continue à couver des yeux.
Ces mêmes groupes d'ailleurs sont pointés du doigt par le New York Times parmi les groupuscules à l'œuvre pour radicaliser le mouvement qui fait suite à la mort de George Floyd.
Et des provocateurs dans les cortèges pour attiser plus encore les tensions et les affrontements avec la police, laquelle reconnaît toutefois le Washington Post, semble elle-même jouer ce rôle de provocateur en adoptant un comportement de plus en plus violent, elle aussi, face aux manifestants. Des actes de violence inacceptables et contraires à toutes les règles policières, on en voit des dizaines par jour. Depuis ces derniers jours, confirme The Verge, la police mise en accusation se défend par plus de violence encore et comme ces actes sont filmés en continu par les manifestants, il est désormais impossible de faire comme s'ils n'existaient pas. En face, ne sous-estimez pas le pouvoir destructeur du désespoir, c'est ce que nous dit en conclusion Charles M. Blow dans un billet du New York Times. Ce qui se passe en ce moment va bien au-delà de la mort de George Floyd, mais répond à la sauvagerie et au carnage que son assassinat représente. Cette impossibilité de l'État et de sa police à réellement mettre fin à l'impunité qui protège les policiers racistes et assassins. Quand l'institution a failli à faire justice, quand il n'y a plus rien à perdre, alors la rage du peuple s'exprime sous la forme d'une rage indistincte, sauvage, tourbillonnante, une violence qui d'ailleurs fait partie de l'histoire américaine, hein, écrit Charles M. Brough, sauf que dans le passé, les émeutes voyaient des Américains blancs s'en prendre à des populations noires ou autochtones. Les Afro-Américains d'aujourd'hui s'inscrivent sans le savoir dans cette tradition, à la différence que, écrit donc Charles M. Brough dans le New York Times, n'attaquent pas d'autres communautés, mais ils demandent que justice leur soit rendue.
Merci Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture.